Retour au studio mobile d'Alternante, implanté au cinéma Saint-Paul à Rezé. Alternante consacre toute cette journée à ce que l'on appelle les gens du voyage, en direct du cinéma Saint-Paul à Rezé. Bruno, pouvez-vous, pour les nouveaux auditeurs nous rejoignant maintenant, nous rappeler ce que l'on appelle les gens du voyage ?
Bien sûr, Joséphine. Les gens du voyage seraient actuellement estimés à 300 000 citoyens français. Parmi ceux-là, un tiers ont conservé un mode de vie encore totalement nomade. Un tiers, 60 000, seraient semi-itinérants, se déplaçant très peu dans l'année mais vivant encore dans des habitats mobiles, et le troisième tiers se serait sédentarisé récemment ou depuis beaucoup plus longtemps. En France, avant de les appeler nomades puis gens du voyage, ils étaient appelés égyptiens, sarrasins ou bohémiens. Ils sont d'origines diverses mais on distingue trois groupes essentiels, les Roms dits orientaux, venus d'Inde du Nord au XIIIe siècle et surtout présents en Europe centrale et orientale, les Manouches principalement installés en Allemagne mais également très présents en France, les Gitans présents dans la péninsule ibérique et le sud de la France. On peut aussi noter la présence des Sinti piémontais qui sont des Manouches transfrontaliers entre l'Italie et la France. Au fil des siècles évidemment, ces populations se sont métissées entre elles, mais aussi avec des sédentaires. Mais, ceux que l'on appelle maintenant les Roms ne sont pas français. La plupart arrivent de Roumanie, quelques-uns de Bulgarie ou de l'ex-Yougoslavie et ils s'entassent le plus souvent dans des taudis en banlieue parisienne. Ils ne sont pas très nombreux, environ 15 000, mais l'amalgame avec les autres gens du voyage est souvent fait. C'est de ces gens-là, c'est-à-dire de ces migrants économiques venus de l'Est de l'Europe, que nous parlent depuis une vingtaine d'années les médias et les leaders politiques. Et c'est la plupart du temps pour des expulsions de campements ou expulsions du territoire. Je le répète, les gens du voyage sont eux bien français et vivent depuis des siècles dans notre pays.
Bruno, il y a une période dramatique qui a été rapidement abordée par le cinéaste Tony Gatliffe quand on a parlé de son film « Liberté » cet après-midi, et sur lequel on pourrait revenir. C'est la période de la Seconde Guerre mondiale, 1939-1945.
Oui, Joséphine, dans les années 30, la traque des Tziganes se généralisa dans toute l'Europe occupée. Et il faut bien avouer que le racisme des populations locales et les pratiques préexistantes des États facilita largement l'action des nazis et leurs complices. En 1939, déchus comme les juifs de la citoyenneté allemande, les « tziganes ethniquement purs » reçurent des papiers d'identité de différentes couleurs en fonction de leur prétendu degré de « mixité raciale ». Ils furent classés en tant que « criminels professionnels »,« criminels habituels »,« menaces habituelles »,« fléaux communs » et mis en détention préventive. Les hommes furent envoyés dans des camps de concentration et soumis au travail forcé, la stérilisation des femmes fut généralisée. L'extermination systématique allait bientôt suivre. Lors des différentes commémorations des génocides de cette période-là, peu de place est généralement accordée sur les tribunes et dans les médias aux survivantes tziganes et à la question du « samoudaripen » ou « porajmo », comme on le dit en langue romani, c'est-à-dire à l'extermination des tziganes pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 2 février 2011 seulement, pour la première fois, le Parlement européen a commémoré le génocide des Roms par les nazis. En France, pendant des décennies, cette histoire a été plus ou moins ignorée. L'histoire des Tziganes entre 1939 et 1945 est restée longtemps méconnue. Elle permet de souligner d'importantes continuités concernant la politique d'internement entre les derniers gouvernements de la Troisième République et le régime de Vichy. Elle illustre une volonté systématique d'exclusion et de contrôle d'une population marginale considérée comme dangereuse. Écoutons la version audio d'un article du Monde diplomatique de février 2022.
Le Monde diplomatique. Analyse.
En interdisant la circulation des nomades sur la totalité du territoire métropolitain et en les assignant à résidence, le décret du 6 avril 1940 posa les fondements de la persécution des collectifs romani et voyageurs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans un rapport adressé à Albert Lebrun, dernier président de la Troisième République, Paul Reynaud, Édouard Daladier, Albert Sérolle et Henri Roy, respectivement ministre des Affaires étrangères et président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre, ministre de la Justice et ministre de l'Intérieur, expliquaient que des mesures devaient être prises à l'encontre des nomades. Ces derniers constituaient, je cite, « pour la défense nationale et la sauvegarde du secret, un danger qui devait être écarté ». Distinguant les nomades des forains industriels ou commerçants, les quatre ministres écrivaient que les déplacements des premiers, je cite, leur permettait de surprendre des mouvements de troupes, des stationnements d'unités, des emplacements de dispositifs de défense, renseignements importants qu'ils seraient susceptibles de communiquer à des agents ennemis. Reprenant très exactement l'argumentation des généraux commandant les régions militaires, ces ministres proposaient, je cite, d'interdire la circulation des nomades et de les astreindre à une résidence forcée sous la surveillance de la police et de la gendarmerie. Entre 1939 et 1946, la France compta ainsi plusieurs centaines de résidences forcées destinées aux nomades. Dans les arrêtés d'assignation à résidence, certains préfets précisèrent, en plus du nom de la commune, l'endroit exact où devaient stationner les personnes concernées. Dans l'Orne, quatre lieux furent désignés. À Courtomer, un chemin de 150 mètres spécialement aménagé pour le stationnement près de la caserne de gendarmerie. À Pervenchère, le terrain de sport. À Rannes, les terrains sous les deux rangées d'arbres plantés de chaque côté de la route à la sortie N de la route nationale 809. À Passé, des terrains vagues non reproductifs appartenant à des particuliers furent également réquisitionnés. Ces quatre lieux avaient en commun d'être très éloignés des principaux centres urbains du département, Alençon, Flers et Argentan, où les nomades avaient l'habitude de stationner, mais aussi d'être proches de casernes de gendarmerie. La proximité de commerces où ils auraient pu s'approvisionner n'était pas une préoccupation pour le préfet de l'Orne. Les lieux d'assignation étaient choisis pour des familles qui avaient des roulottes. Pourtant, toutes n'en possédaient pas, car beaucoup avaient dû abandonner la leur au moment de l'arrivée des Allemands. Les préfets se retrouvaient donc dans une situation où ils devaient assigner à résidence des personnes qui n'avaient ni résidence ni roulotte. Si certains en prirent la mesure et réquisitionnèrent des granges et plus rarement des maisons, d'autres ignorèrent la situation de dénuement extrême dans laquelle se trouvaient certaines familles. En novembre 1945, Charles Weiss écrivit au préfet de la Nièvre pour lui demander l'autorisation de circuler pour trouver un logement pour sa famille. Il expliqua qu'il était, je cite, « retenu depuis 5 ans dans la localité de Saint-Saulge avec sa femme et leurs 9 enfants âgés de 12 ans à 3 mois et qu'il logeait dans une voiture, ne trouvant aucun local pour y habiter. Les hivers précédents avaient été très rudes. Je vois l'hiver arriver et m'inquiète pour ma petite famille. » Le préfet de la Nièvre transmit la lettre de Charles Weiss au ministre de l'Intérieur pour lui demander quand les mesures d'assignation prendraient fin. Mais il n'autorisa cependant pas Charles Weiss à se déplacer et ne fit pas non plus réquisitionner une maison pour sa famille. Dans certains lieux d'assignation à résidence, il n'était pas rare que ceux qui n'avaient pas de roulotte dorment quotidiennement sous les roulottes de leurs voisins, sur de la paille, pour se protéger de la pluie et du vent. Ainsi en témoigne Anna Lagrenet-Ferré. On dormait en dessous de la caravane parce qu'on n'avait rien. Mon père avait pris dans les maisons cassées des briques et il a mis toutes les briques ensemble en dessous de la caravane. Il avait mis de la paille qu'il avait prise dans les fermes et on dormait en dessous, sur un chiffon, avec les enfants. Au beau milieu d'une forêt. Il pouvait arriver que les préfets réquisitionnent des locaux pour abriter les personnes sans roulotte. Mais il s'agissait la plupart du temps de lieux peu propices à l'hébergement de familles nombreuses. En novembre 1940, le sous-préfet d'Aubusson choisit d'héberger des nomades dans le bâtiment de la prison désaffectée d'Aubusson. Mais puisqu'il s'agissait d'une assignation à résidence, aucun budget n'avait été prévu pour équiper le bâtiment. Les hommes, les femmes et les enfants dormaient à même le sol. Les assignés à résidence furent, en outre, contraints de retirer le plancher en bois afin de le brûler pour se chauffer. Au lieu d'assister ces familles dans le plus grand dénuement, le commissaire de police d'Aubusson écrivit au sous-préfet pour lui dire que les nomades maintenaient la prison désaffectée dans un état, je cite, de saleté repoussant, et que, comme ils étaient, je cite, en surnombre dans l'économie nationale, ils demandaient le transfert des hommes dans un camp de travailleurs et celui des femmes au camp d'Argelès. Sur quel fondement les autorités choisissaient-elles les lieux d'assignation à résidence ? Le critère principal que l'on retrouve unanimement dans les correspondances est celui de la proximité avec les forces de l'ordre. Certaines résidences forcées furent installées à moins d'une centaine de mètres de casernes de gendarmerie. D'autres étaient sur le parcours quotidien des brigades. Le second critère était celui de l'existence de points d'eau à proximité. À défaut de leur porter assistance, les autorités locales veillèrent dans certains cas à ce que de l'eau potable soit accessible à une courte distance de marche. Cependant, ce qui préoccupait le plus les autorités était de trouver un lieu qui ne fût ni une propriété privée, ni un terrain communal fréquenté. Bien souvent, les préfets imposèrent aux maires des localisations sans tenir compte de leurs protestations. Mais ces derniers acceptèrent en échange que les nomades soient installés dans des lieux hostiles. Fin avril 1940, le sous-préfet de Béziers, le commandant de gendarmerie de Béziers et un médecin se rendirent à Nisas pour examiner le terrain choisi par le préfet de l'Hérault pour y recevoir des nomades. Il s'agissait d'un terrain vague, sur un plateau couvert d'herbes et piqué par places de petits buissons entre les communes de Nisas et de Clos. Les trois hommes constatèrent que ce terrain était couvert de tas de détritus et comprirent qu'il servait en fait de décharge aux habitants des alentours. De plus, ils notèrent que le point d'eau le plus accessible était le lavoir de Nisas, qui restait très éloigné, et que la nature basaltique du terrain rendait ce dernier imperméable et donc inondable. Ces arguments ne suffisant pas à convaincre le préfet de l'Hérault que ce terrain ne pouvait pas accueillir de roulotte, le sous-préfet de Béziers ajouta que l'emplacement rendait la surveillance difficile et qu'il ne serait pas possible d'empêcher les nomades de se rendre à Nisas, soit pour chercher de l'eau, soit pour aller aux provisions. Beaucoup de lieux d'assignation à résidence étaient si éloignés des centres de villes et de villages que les nomades ne pouvaient s'y rendre fréquemment. Le préfet du Var choisit ainsi d'assigner à résidence certaines personnes au beau milieu d'une forêt, près d'Ops. Dans les correspondances préfectorales, ce lieu était nommé le camp des chênes. Ainsi, les nomades français furent triplement victimes d'antitsiganisme pendant la Seconde Guerre mondiale. La Troisième République les fit interner et assigner à résidence avant même la défaite militaire. Le régime de Vichy et l'occupant poursuivirent et durcirent cette politique jusqu'en septembre 1944. Le gouvernement provisoire de la République française prolongea leur internement jusqu'en juillet 1946, date à laquelle le décret du 6 avril 1940 fut abrogé.
Le monde diplomatique. On s'arrête, on réfléchit.
C'était la lecture d'un article de février 2022 de Lise Fesneau, chargée de recherche au CNRS. Cet article a été lu par Anne Stephens. Exemple d'un camp du Loiret pour Tzigane en 39-45. Le camp de Jargeau, un reportage de FR3 Région Centre, de 1998.
Octobre 1940, la France est occupée. La Feldkommandantur d'Orléans ordonne au préfet du Loiret de procéder à l'arrestation de tous les nomades et tziganes sur le territoire du département. L'ordonnance allemande précise que les autorités françaises doivent elles-mêmes organiser les rafles. Les gendarmes exécutent et le 5 mars 1941, le camp de Jargeau accueille les premiers internés. 50 ans plus tard, à Orléans, un étudiant s'est penché sur les archives pour présenter un mémoire sur ce camp d'internement.
On peut estimer à un peu plus de 1700 le nombre de personnes qui y ont été acheminées et qui sont restées pour une durée très variable. L'exemple du réfractaire OSTO qui va y rester une semaine et l'exemple des Tziganes qui resteront pour certains plus de 4 ans. Et sur ces 1700 personnes, plus d'un millier donc sont des Tziganes.
Alors que le pays est libéré en 1944 par les Alliés, les Tziganes internés au camp de Jarjo ne retrouvent leur liberté qu'à la fin de l'année 1945.
La libération de ces populations devait poser des problèmes aux yeux de à la préfecture du Loiret, donc qui continue de gérer ce camp. Et sans doute qu'on a souhaité temporiser, on a considéré que ce n'était pas une priorité, qu'il valait mieux faire en sorte que ces libérations soient étalées dans le temps et de manière à ce que à ne pas avoir un flux, une arrivée massive sur les routes de Tziganes libérés.
Arrêté à Montargis en 1942 avec sa mère et son frère, Fernande Massé, née Stéphane, avait 11 ans à l'époque. Internée durant 2 années, elle se rappelle. Les conditions d'hygiène déplorables, les vagues d'épidémie et une sous-alimentation chronique.
C'est la faim qu'on a connue le plus. Vous savez, quand vous avez faim, eh ben, c'est terrible. Nous, les enfants, on arrivait à moins manquer. Parce que comme on allait à l'école, on avait des professeurs qui étaient gentils avec nous, nous amenaient toujours un petit peu quelque chose. Et en général, on allait en promenade et tout ça, ils nous emmenaient en promenade, les professeurs, et ils nous ramenaient et on arrivait à avoir un peu quelque chose. On avait de très bons professeurs.
Ils avaient des grandes jambes maigres et des pieds nus dans des sabots trop grands pour eux. Et puis, ils étaient vraiment apeurés. Ils ne ressemblaient pas à des visages d'enfants. Ils avaient déjà des visages trop mûrs pour leur petite taille et leur âge véritable.
Violette l'enfant se souvient encore de ses 20 ans. C'était en 1942, dans l'enceinte même du camp. Elle se marie alors avec Frédéric Guêpe, interné comme elle, à Jarjo.
Les habitants de Jarjo n'ont jamais essayé de vous aider de l'extérieur ?
Ah non, 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 non.
Pas non, non. Distribution de nourriture.
Ah non, 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 jamais, 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 jamais. Jamais. Ça, on n'a jamais été aidé. On était mangé à la vermine, on était. C'était affreux, 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 affreux. Affreux.
Le dimanche, ils venaient, ils se promenaient, quoi. Ils venaient voir les bêtes, comme si on arrêtait des bêtes dans le camp, quoi. Ça leur faisait une sortie le dimanche pour aller voir comment qui se comportaient les Tziganes, quoi. Puis ils étaient contents. Il y en a qui faisaient des fois des kilomètres pour venir voir comment ça se passait au camp. Comme si on arrêtait des animaux, quoi. Tout la même chose.
Jean-Louis Boer a été interné à l'âge de 10 ans. Président de l'Association nationale des victimes et des familles de victimes tziganes, il écrit en 90 à la mairie de Jarjo afin qu'une stèle commémorative soit érigée à l'emplacement même du camp sur lequel on a construit en 74 un collège. Malgré l'accord du maire, le conseil municipal refuse.
Il se trouve qu'un certain nombre de mes collègues n'étaient peut-être pas prêts, peut-être m'y suis-je mal pris pour leur expliquer. Bon, ça s'est manifesté à la suite de cela par un vote négatif qui ne reflétait pas forcément un refus du souvenir, mais reflétait que ça ne correspondait pas ni à ce moment-là à leur état d'esprit ou surtout à la manière dont ils voulaient interpréter ces souvenirs.
En 1991, le conseil municipal revient sur sa décision. Sur la pierre, ces mots gravés, lutte contre l'oubli.
Ils étaient marginaux de la mémoire sociale. Ils sont devenus les marginaux de la mémoire sociale. Et donc, on a une responsabilité essentielle et d'autant plus importante qu'ils n'ont pas de relais dans l'écrit, c'est une culture de l'oral. Et encore aujourd'hui, ils n'ont pas la possibilité véritablement de faire passer un message sur leur propre histoire. Et donc là, on a une responsabilité centrale comme historien, comme citoyen, comme journaliste et comme politique, et responsable politique, bien entendu.
Comme beaucoup d'anciens internés, Augustine Arnberger s'est sédentarisée. Elle est restée vivre à Jargeau pour ne pas oublier.
Je me demande pourquoi ils mettaient les gardiens français, hein, qui étaient encore plus méchants que les Allemands. Parce que finalement, ils nous disaient que c'était les Allemands, mais ce n'était pas les Allemands. Hein. Les Allemands, eux, quand ils arrivaient, ben, on avait dû manger à peu près potable. On avait un bout de viande. Aux hommes, ils leur donnaient un quart de vin, pas grand-chose, mais un quart. Alors... finalement, c'était pas les Allemands hein, qui faisaient la misère au camp, hein, c'était les Français. Hein. Oh, mais il y en a qui se borraient hein, quand ils nous voyaient, quand on est sorti du camp, qu'il y en a eu pas mal qui ont été libérés, ben dis donc, vous les voyez pas traîner dans les rues. Hein.
Nous sommes vraiment les oubliés de l'histoire, et puis moi je comprends pas comment ça se fait, pourtant l'histoire devrait se. C'est nous les plus touchés là-dedans, bien dire. Parce que nous, pour nous, on n'a pas changé notre vie, on est toujours. Délaissés, des persécutés pour le voyage, et c'est pareil, on peut pas arrêter n'importe. Moi, je voyage plus parce que ma pauvre mère, elle en était dans les camps après la guerre, elle voulait plus voyager parce qu'elle avait peur de se faire ramasser. On avait toujours peur, on avait toujours la méfiance de se faire ramasser. Puis le plus terrible, c'est quand on est sorti du camp de Jargeau. On nous achetait comme des chiens en plein froid. La neige qui tombait, le froid glacial, pince ou rien du tout.
Il reste encore beaucoup à faire pour que la mémoire de cet épisode tragique dans la vie des gens du voyage soit mieux connue et reconnue.